Voilà, chers amis, le troisième triptyque de notre temps pascal, de Triduum pascal. Et aujourd'hui, nous allons parler évidemment du Samedi Saint à travers la figure de la Vierge Marie, Maria causa nostre letizie, comme on le dit dans les litanies de Lorette, litanie de la Sainte Vierge, Marie cause de notre joie. Dans ce Samedi Saint, que se passe-t-il? Le Seigneur est mort, a été mis au tombeau, et peut-être faut-il un peu expliquer qu'est-ce que c'est que la mort. La mort, c'est, vous le savez, la séparation de l'âme et du corps. Jésus, pleinement homme, a une âme humaine, un corps humain, sinon il ne serait pas totalement homme, c'était tout l'objet des polémiques christologiques au cours du siècle, des siècles. Et donc Jésus est vraiment homme totalement, avec une nature intègre d'homme. Donc il vit les choses comme nous les vivons. Et donc par la mort, son corps et son âme ont été séparés. Chez les Juifs, par parenthèse, l'âme est représentée par le sang qui est le principe de vie pour les animaux et pour les êtres humains. C'est pour ça qu'ils ne mangent jamais les animaux avec le sang. Vous savez qu'ils mangent cachère, ils vident les eaux parce qu'on ne peut pas manger la vie qui vient de Dieu en quelque sorte. Mais l'équivalent, c'est l'âme pour nous dans une pensée plus hellénistique, plus grecque. Donc l'âme et le corps de Jésus sont séparés. Le corps, nous savons où il va. Facile. Il est mis au tombeau. Très bien. L'âme de Jésus, l'âme humaine de Jésus, immortelle comme toute âme humaine, même si elle est créée, où va-t-elle cette âme humaine de Jésus? Eh bien, c'est là que nous disons avec toute l'Église, elle descend aux enfers, au pluriel, pour aller à la rencontre de qui? De ceux qui étaient là dans ce lieu d'attente depuis qu'ils étaient apparus sur la terre, ceux qui avaient été des sages, ceux qui avaient vécu comme des justes devant Dieu et qui n'avaient pas accès au paradis. Pourquoi n'avaient-ils pas accès au paradis? Parce qu'il était fermé et parce qu'il fallait que le Sauveur vienne, que le Sauveur ouvre le paradis. Et donc, ils n'étaient pas en enfer, puisqu'ils ne méritaient pas l'enfer, puisqu'ils étaient justes et sages. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas entrer au paradis. Alors, ils étaient dans ce lieu, un peu difficile à décrire, un lieu d'attente que les anciens appellent les limbes des patriarches. Pas confondre avec les limbes des enfants, c'est une autre affaire. Les limbes des patriarches n'existent plus puisque, justement, Jésus, au jour du Samedi Saint, descend dans les enfers pour appeler les justes qui attendaient le Sauveur promis qui leur permettrait d'entrer dans le paradis de Dieu, et nous savons, c'est la vision même de Dieu, c'est de vivre en présence de Dieu. Voilà ce qui se passe dans le grand silence du Samedi Saint, l'âme de Jésus descend aux enfers. Il y a une petite question quand même qu'on peut se poser, mais Jésus, comme vous le savez, est vrai homme, nous l'avons dit, corps et âme, mais il est aussi vrai Dieu, et par l'union de l'incarnation, c'est ça le principe, la nature humaine de Jésus et la nature divine de Jésus sont unies inséparablement. C'est même ça la grâce de l'union, justement. Même si elles ne sont pas confondues, mais elles sont unies inséparablement, chacune gardant ses prérogatives, si je puis dire, mais dans une union parfaite. Où est la divinité de Jésus? Parce que l'âme descend aux enfers, le corps est au tombeau, où donc est la divinité de Jésus? Ah, ben si vous ouvrez le catéchisme, vous allez trouver, vous saurez. Aux deux endroits, parce que la divinité ne peut pas se séparer ni de l'âme, ni du corps de Jésus. Si j'étais une petite souris, j'arrivais à me faufiler dans le tombeau le Samedi Saint, où le corps de Jésus blessé, ensanglanté, est étendu sur la banquette funéraire du tombeau, je pourrais, au sens strict, adorer Jésus en son corps mort, en ce cadavre de Jésus. Je pourrais l'adorer au sens strict parce que Dieu est présent. Et finalement, la résurrection, on en parlait plus à la fin, la résurrection c'est quoi? C'est la réunion du corps et de l'âme de Jésus. Séparés par la mort, ils sont de nouveau réunis en un statut totalement glorieux, comme je vous l'ai évoqué hier. Dans son humanité, Jésus connaît les faiblesses, pas le péché, mais les faiblesses liées à notre humanité. Et il y a cette tension, justement, de cette humanité qui va entrer progressivement dans la gloire divine et totalement. C'est ce qui se réalise, bien sûr, au jour de la résurrection du Seigneur, où l'humanité de Jésus est glorifiée. Les apôtres en avaient eu une sorte d'avant-goût au moment de la transfiguration, vous vous en souvenez, et Jésus là ne voile plus la gloire qui est la sienne. Son corps humain, toute son humanité est définitivement saisie par la grâce divine pour qu'elle ne connaisse plus ni la souffrance ni la mort. Tout est transfiguré, transformé en Jésus. Voilà la résurrection. Mais si nous nous en tenons à ce grand silence du samedi saint, c'est le grand silence de la terre en attente. Jésus descend aux enfers. Nous avons lu tout à l'heure avec ceux qui étaient là le texte de l'office des lectures, mais je ne risque pas de vous en relire un passage de cette descente aux enfers. C'est un très beau texte antique, une homélie sur le grand et saint samedi. Que se passe-t-il aujourd'hui? Grand silence sur la terre, grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif, en même temps que vers Ève captive, elle aussi, que Dieu se dirige et son Fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, « Mon Seigneur, avec nous tous !» Et le Christ répondit à Adam, « Et avec ton esprit !» Il le prend par la main et le relève en disant, « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. C'est moi ton Dieu qui pour toi suis devenu ton fils. C'est moi qui pour toi et pour tes descendants te parle maintenant et qui par ma puissance ordonne à ceux qui sont dans les chaînes, sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, soyez illuminés. À ceux qui sont endormis, relevez-vous. Je te l'ordonne, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts, moi je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, lève-toi, mon semblable qui a été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici, car tu es en moi et moi en toi. Nous sommes une seule personne indivisible. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils. C'est pour toi que moi, le Maître, j'ai pris ta forme d'esclave. C'est pour toi que moi qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre. C'est pour toi l'homme que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts. C'est pour toi qui es sorti du jardin que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. Quel admirable texte! Et vous voyez, bien ce texte a été illustré, vous connaissez sans doute cette icône en Orient, on voit le Christ justement, on voit les tombeaux ouverts, on voit Adam et Ève et le Christ qui prend Adam par la main. Vous connaissez sans doute cette icône, elle vient sans doute dans cette même lignée que ce texte. Au cœur du drame de la Passion et de ce grand samedi, nous le disions déjà avant-hier et hier, il y a la Vierge Marie, bien sûr, la Mère de Dieu, qui a accompagné son Fils jusqu'au bout, qui reste fidèle dans la prière. C'est Marie, la toute compatissante, à qui un spirituel adressait cette prière. « Mère, j'ai tué ton Fils. Si tu me pardonnes, je puis être pardonné. Si tu retiens ton pardon, rien ne peut me sauver de la damnation. Par volonté de Jésus, nous l'avons vu hier, à l'heure même de sa mort, sa mère devient notre mère. De sorte qu'en quelque sorte, notre salut dépend totalement d'elle. Oh, il dépend totalement de Jésus, nous l'avons bien compris. Mais par volonté de Dieu, il veut le faire passer, ce salut qu'il a acquis, je vous rappelle ça, de toujours sur la croix, et lui seul, il veut le faire passer par Marie. C'est elle qui va nous enfanter aux grâces de cette rédemption que lui, Jésus, a acquise. Et donc, la Vierge Marie est celle par qui passe tout le salut, parce que c'est elle qui nous enfante. Et donc, en ce sens, notre salut dépend d'elle. Il nous faut donc la suivre dans le silence de ce jour, nous accrocher à elle, pour ne pas manquer d'être emporté au passage par le souffle de vie divine qui va surgir. Dans un premier temps, je voudrais vous parler du silence de Dieu. Dieu entre dans le silence. Dieu est un immense silence. Mais pas un silence vide, un silence rempli de son être, d'un échange d'amour, un silence rempli d'une joie intense et même débordante. Mais vous souvenez quand Jésus, Dieu fait homme, vient parmi nous et qu'il vit cette terrible passion, il se tait. Vous l'avez remarqué dans le procès devant Pilate, le silence de Jésus devant l'injustice. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te faire relâcher ou de te crucifier ? Jésus se tait. Il se tait pour compatir, s'unir aux injustices que tant d'hommes vont vivre. Silence aussi du Fils, mais silence aussi du Père. Parce que Jésus fait cette expérience terrible de l'abandon du Père. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? Silence encore du tombeau. Jésus est mis au tombeau. Le Verbe, la parole, celui qui sait toutes choses, qui dit toutes choses, qui connaît toutes choses, qui nous révèle toutes choses, se fait silence dans le tombeau. Pourquoi Dieu reste-t-il dans le silence ? Pourquoi Dieu reste-t-il dans le silence alors que tant de fois nous voudrions qu'il intervienne, tant d'hommes le disent, mais votre Dieu, il n'existe pas, il se tait devant le mal, devant la souffrance. Pourquoi Dieu reste-t-il dans le silence ? Voilà ce que dit une mère de famille dans une lettre. Lorsque mes enfants étaient petits, que je pensais pour eux, tout était facile. Ma liberté seule était en cause. Mais le moment venu, quand j'ai réalisé que mon rôle était de les habituer à des choix progressifs, j'ai senti, dès que j'y ai consenti, l'inquiétude s'installer en moi. Je pense que les mamans qui sont dans cette assemblée peuvent le dire pareil. En laissant mes enfants prendre des décisions, donc des risques, je prenais, moi, du même coup, le risque de voir surgir d'autres libertés que la mienne. Si trop souvent j'ai continué à choisir à la place de mes enfants, c'était, il faut l'avouer, pour leur épargner de souffrir d'une option que peut-être ils auraient à regretter. Mais c'était au moins, sinon plus, pour ne pas risquer de connaître l'épreuve d'un désaccord entre leur choix et celui que j'aurais souhaité leur voir faire. Manque d'amour de ma part, donc, puisque, agissant ainsi, je voulais essentiellement me mettre à l'abri d'une possible souffrance, celle que j'ai éprouvée chaque fois que mes enfants se sont engagés sur une autre voie que celle qui m'apparaissait pour eux la meilleure. Ainsi, je parviens à entrevoir que Dieu Père puisse souffrir. Nous sommes ses enfants. Il nous veut libres de nous construire nous-mêmes et l'infini de son amour nous rend impossible toute contrainte de sa part. Amour parfait, sans trace de calcul, mais qui implique l'acceptation au départ d'une souffrance inhérente à cette liberté totale qu'il veut pour nous. Devant le péché, devant le mal qui en est la conséquence, devant la souffrance qui en est encore la conséquence, Dieu se tait, non pas d'un silence qui se retire, un silence indifférent, mais d'un silence qui souffre avec. Dieu s'unit au silence de tous les hommes blessés par le péché, marqués par l'injustice. Dieu est là, plus présent que jamais, dans ce grand silence qui est le sien, celui de l'amour blessé, celui de l'amour non reconnu, celui de l'amour qui n'a pas reçu une réciprocité. Croire en un Dieu silencieux qui souffre, dit le cardinal Sarah, c'est rendre le mystère du silence de Dieu plus mystérieux et plus lumineux aussi. C'est chasser une fausse clarté pour lui substituer d'éclatantes ténèbres. On voudrait que Dieu résolve tous nos problèmes sur le champ et on le pense distant. Il nous rejoint dans le questionnement sur les choses fondamentales de l'existence, notamment le mal, la souffrance et la mort. Son silence rejoint le nôtre et nous met devant les responsabilités du péché, des origines et de ses conséquences, mais aussi de notre propre péché. Le silence du tombeau s'associe au silence souffrant de nos vies et des questionnements de toute l'humanité. Tout le problème advient quand l'homme veut sortir par lui-même de ce silence en des solutions rapides, toutes faites, qui n'en sont pas. Tant que l'homme pense se sauver par lui-même, il ne consent pas à descendre avec Jésus dans le tombeau et ne trouvera pas d'issue, sinon illusoire, à ses maux. Toute l'histoire de l'humanité, au fond, est un grand samedi saint. L'Église elle-même doit consentir à épouser le silence de Jésus au tombeau, tant qu'elle chemine sur la terre. Il y a une chose qui m'agace, comme ça ce sera dit, c'est ces chemins de croix où il y a une 15e station. Tout de suite, Jésus est ressuscité. Mais restons dans le silence du tombeau. Pourquoi fait-il si peur ce silence? C'est le lot de toute l'humanité, depuis les origines. Pourquoi vouloir tout de suite passer dans un esprit mondain qui fuit le silence, qui fuit l'intériorité? Pourquoi tout de suite passer à ce qui va nous consoler comme ça, mais de manière superficielle, si nous ne vivons pas vraiment un vrai silence intérieur, un silence qui s'unit au silence de Dieu? Comment pourrons-nous goûter pleinement la joie du ressuscité? Il faut consentir au silence. Il y a un enjeu absolument vital pour notre monde, surtout aujourd'hui. Nous pouvons avoir tous les plans pastoraux, toute l'évangélisation que nous voulons, tout ce que vous voulez. Si nous, les chrétiens, nous n'entrons pas dans le silence où nous rencontrons véritablement Dieu, tout cela ne servira à rien. Tout cela restera superficiel. Parce que ce qui compte vraiment, c'est cette union d'amour, ce don total que nous pouvons faire et vivre dans le silence. Pour cela, les moines ont choisi et les moniales ont choisi la meilleure part. Et c'est eux qui sauvent le monde. Pas nous avec nos plans pastoraux ou que sais-je. Ça veut pas dire qu'il faut pas en avoir. Mais voyez ce que je veux dire. C'est important et c'est fondamental. C'est un enjeu absolument vital. Lisez le beau livre du cardinal Sarah sur la force du silence. J'insiste là-dessus très fortement. Jésus va jusqu'au bout de la descente, de l'anéantissement. Il faut qu'il assume aussi le silence angoissant de la mort et rejoignent ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'attente des limbes des patriarches, comme je vous le disais. S'il était ressuscité tout de suite, Jésus, instantanément, comme ça, nous resterions seuls devant la mort. Il n'aurait pas partagé notre mort et ce silence d'angoisse, ces ténèbres profondes. Et nous aurions alors une angoisse terrible de penser que nous serions abandonnés de Dieu. Benoît XVI, dans une belle méditation à l'occasion de l'ostension du Saint-Suaire de Turin, le 2 mai 2010, voici ce qu'il dit. Jésus-Christ est descendu aux enfers. Que signifie cette expression ? Elle signifie que Dieu, s'étant fait homme, est arrivé au point d'entrer dans la solitude extrême et absolue de l'homme, où n'arrive aucun rayon d'amour, où règne l'abandon total, sans aucune parole de réconfort, les enfers. Jésus-Christ, demeurant dans la mort, a franchi la porte de cette ultime solitude pour nous guider également à la franchir avec lui. Dans le royaume de la mort a retenti la voix de Dieu. L'impensable a eu lieu, c'est-à-dire que l'amour a pénétré dans les enfers, dans l'obscurité extrême de la solitude humaine la plus absolue également. Nous pouvons écouter une voix qui nous appelle et trouver une main qui nous prend et nous conduit au dehors. Tel est le mystère du samedi saint. Précisément de là, de l'obscurité de la mort du Fils de Dieu, est apparue la lumière d'une espérance nouvelle, la lumière de la résurrection. Ainsi, il me semble qu'en regardant ce saint linceul avec les yeux de la foi, on perçoit quelque chose de cette lumière. Le linceul de Turin, témoignage, relique extraordinaire, seul témoignage du tombeau du samedi saint, des témoignages éloquents et silencieux pourtant de cette victoire du Christ sur la mort. La mort s'est fait avoir, le démon s'est fait avoir, parce que en tuant Jésus par le truchement de ses suppôts terrestres, il a introduit dans la mort la vie même, le principe même qui allait faire tout imploser, en introduisant dans les ténèbres profondes la lumière, alors advenait l'espérance pour ceux qui sont prisonniers des ténèbres. Dans un deuxième temps, voyons ce grand silence de Dieu et du samedi saint. Parlons un peu de Marie dans le silence du samedi saint. Elle a suivi l'ensevelissement de Jésus au soir du Vendredi Saint. Elle aurait voulu mourir avec Jésus, je vous le disais hier, et être ensevelie avec lui. Elle laisse son cœur dans le tombeau avec Jésus, dit saint Alphonse de Ligorie. Voilà ce qu'il dit. Avant de partir du sépulcre, saint Bonaventure veut qu'elle ait béni cette pierre sacrée, disant « Ô heureuse pierre, qui maintenant ferme en toi celui qui a été 9 mois dans mon sein, je te bénis et t'envie. Je te laisse garder mon Fils qui est tout mon bien, tout mon amour. » Et se tournant vers le Père éternel, il dit « Ô Père, je vous confie celui qui est votre Fils et mon Fils. » Nous pouvons aussi faire un parallèle entre l'Annonciation et le Samedi Saint. Vous l'avez fait aussi au Jeudi Saint pour vous dire comment la Vierge Marie, d'une certaine manière, dit « Voici mon corps », donnant à Jésus la possibilité même, lui, le Verbe de Dieu, de prendre un corps pour pouvoir s'offrir un jour pour notre salut en mourant sur la croix. Là, dans l'Annonciation, ce mystère de l'Annonciation, nous pouvons contempler le silence de la maison de Nazareth. Marie n'est pas bavarde, vous l'avez remarqué dans les évangiles. Elle est tout en silence, tout en intériorité, et nous montre justement la voie d'excellence pour nous unir au Seigneur. L'ange Gabriel vient et annonce à Marie qu'elle va porter l'Emmanuel, sauveur des hommes. C'est une brèche dans ce silence intense et profond de la maison de Nazareth, l'humble demeure. La parole vient briser ce silence. Mais pour qu'elle prenne tout son retentissement, je vous le disais aussi, il faut qu'il y ait un profond silence. Pour qu'elle soit féconde, il faut qu'elle vienne féconder justement notre silence, caché en son sein et dans le silence, la vie attend de se manifester. En même temps, Marie connaît une profonde angoisse, car cette vie qui surgit en elle par l'opération de l'Esprit-Saint est porteuse de mort en perspective. Je vous le disais aussi, obéir à Dieu, c'est signer son arrêt de mort. Elle qui est devenue mère, alors qu'elle n'est pas encore tout à fait mariée avec Joseph. Et vous savez le sort qui était réservé aux femmes adultères, la lapidation. Son oui est porteur ainsi d'une extraordinaire foi et d'une confiance en Dieu qui peut tout. Et c'est dans le silence, broyée par cette contradiction apparente de cette vie extraordinaire qu'elle porte et en même temps de la mort promise à cause même de son oui, que Marie nous guide dans ces ténèbres. Au tombeau, Marie confie Jésus mort à la terre. Et sa confiance, on peut l'imaginer, puise dans la fidélité de Dieu qui ne l'a pas abandonné en toutes ses douleurs, et singulièrement cette douleur première dont je vous parlais. Elle sait que Jésus a donné librement sa vie. Elle a entendu toutes ses paroles. Dans le silence du tombeau, comme jadis dans le silence de son sein virginal, le Seigneur agit comme la semence qui germe dans la terre. La Vierge vit dans la foi obscure. Elle n'a pas, comme Jésus, la vision béatifique en son âme. Elle sait qu'elle va parcourir une voie unique, mais elle ne sait pas le comment. Et chaque pas sera un nouveau déchirement. Silence de Marie. Mais aussi, Marie, c'est mon troisièmement, cause de notre joie, nous enfante à la vie. À l'heure du tombeau, à l'heure de la passion, à l'heure d'ailleurs de toute la vie de Jésus parmi nous, à l'heure même et depuis le moment de sa conception immaculée, Marie est toute l'Église à elle toute seule. Elle est, vous le savez, la première sauvée, et c'est bien ça, le mystère de son immaculée conception. Déjà, elle a été préservée du péché, pour ne jamais plus pécher, ne jamais pécher de toute sa vie. Elle, l'Immaculée, dès le premier instant où elle commence d'exister, par ce dessein extraordinaire de Dieu, Notre-Dame bénéficie déjà de toutes les grâces puissantes de la rédemption acquises par Jésus en mourant sur la croix. Ce qui veut dire que, de manière antécédente, anticipée, Marie est déjà sauvée par la croix. C'est la première sauvée. Le salut s'est opéré en elle. Et à la Pentecôte, elle n'aura pas besoin de recevoir l'Esprit-Saint, car tout lui a déjà été donné. En quelque sorte, jusqu'au moment de la Pentecôte, Marie est toute l'Église, à elle toute seule, parce que c'est la seule pour l'instant qui est sauvée, la seule élue. C'est pourquoi nous pouvons faire un parallèle si profond, si beau, toujours entre le mystère de l'Église, le mystère de Marie. Si nous parlons bien de Marie, nous parlerons bien de l'Église. Si nous aimons Marie, nous aimerons l'Église. Si nous avons foi en Marie dans tous les aspects de son mystère sans en oublier aucun, alors nous aurons une foi claire et nette en l'Église. Sinon, gare l'hérésie guette. Le Concile Vatican II ne s'y est pas trompé, vous le savez, dans la constitution Lumen Gentium sur l'Église, si belle constitution. Il a voulu inclure dans ce schéma, chapitre 8e, sur la Vierge Marie, parce qu'elle est figure de l'Église. Elle est le phare qui nous montre, à travers tout ce qu'elle est dans son être, le mystère même de l'Église. À bonne mariologie, bonne ecclésiologie, parce que Marie déjà est toute l'Église, comme je vous le disais, jusqu'à la Pentecôte. Elle a donc recueilli en elle toutes les grâces du salut. Cardinal Journet, au moment de la Vierge, tous les pouvoirs hiérarchiques sont repliés dans le Christ. Jésus communique bien ses pouvoirs à Pierre, il faut ajouter même aux apôtres, mais c'est par anticipation, et ils ne s'exerceront qu'une fois qu'il sera parti. Quand Jésus est présent, ce n'est pas Pierre qui parle. Le Christ est prêtre et roi, et il est la sainteté. La Vierge, elle n'a pas les pouvoirs hiérarchiques. Elle n'est pas prêtre. Elle n'est pas destinée à prêcher ni à enseigner. Mais Jésus a mis en elle toutes les grandeurs de sainteté, puisqu'en elle est ramassée dans son intensité souveraine toute la sainteté de l'Église. L'Église, à ce moment-là, apparaît donc sans les pouvoirs hiérarchiques, comme elle le sera au ciel. Au ciel, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus d'évêques, etc. Même si nous gardons le sceau, le caractère sacerdotal au ciel, il n'y a plus de pouvoir hiérarchique au ciel. Comme dit le cardinal Journet, les seules grandeurs au ciel qui demeurent, ce sont les grandeurs de sainteté, pas les grandeurs de hiérarchie. Elle apparaît donc sans les pouvoirs hiérarchiques, cette Église, comme elle le sera au ciel, où ils ne seront plus nécessaires, puisqu'il y aura la vision, et que ne subsisteront plus que les grandeurs de sainteté et l'épanouissement dans l'amour. Et vous voyez combien la Vierge Marie est déjà une figure de cette Église céleste, de cette Église éternelle, déjà rachetée et heureuse et glorieuse au ciel. Pourtant, elle est passée par les affres de la passion, de la croix, de la souffrance. Jésus l'a associée à sa croix, pour qu'elle porte le monde avec lui. En nous la donnant comme mère, il signifie que toutes les grâces qu'il acquiert, lui seul, passent pourtant entièrement par elle, comme je vous le disais, pour se déverser dans les âmes qui en bénéficieront. Elle s'unit à son Fils pour obtenir le salut du monde. C'est ce qu'on appelle la co-rédemption, qui recueille et diffuse, mais la rédemption qui vient de Jésus, mais pas en intensité, mais en extension, pour la répandre, si vous voulez. Même si tout vient du seul Sauveur, elle est mère de la grâce en nous enfantant à la vie divine restaurée dans nos âmes. Jésus, en mourant, achève sa mission rendue possible par celle qui lui a donné son corps à offrir en sacrifice. C'est à ce même moment qu'il nous la donne pour nous enfanter, pour être mère de l'Église, pour constituer cette Église afin qu'elle puisse recevoir la grâce du salut et la porter à tous les hommes. Au jour du samedi saint et du grand silence du tombeau, Marie porte l'espérance des hommes en elle. Elle est déjà sauvée, comme je vous le disais, par la mort de son Fils. Jésus passe par la mort, mais le germe de vie qu'il a semé est déjà pleinement présent et éclos en Marie. Du coup, dans les ténèbres les plus épaisses, Marie est la petite flamme qui scintille et promet l'embrasement à venir. Elle veille dans la foi et la confiance, témoin vivant, témoignant que la rédemption est acquise et qu'il n'est qu'une question de temps pour qu'elle soit totalement manifestée par la victoire de la vie sur le péché et sur la mort et sur le désespoir. Je vais vous raconter une petite histoire d'un bon monsieur. J'ai plus de nouvelles de lui, je pense qu'il doit être décédé maintenant parce qu'il était déjà âgé quand il a raconté. C'était un ancien chef scout très amusant et qui vivait à Cotteret. Il avait une maison à Cotteret au-dessus de Lourdes dans la montagne. Et puis j'étais avec quelques routiers, ils nous hébergeaient et ils nous avaient raconté son histoire, la rencontre avec sa femme, qui était la plus jolie de toutes, évidemment, et une histoire sur un quai de gare, c'était rencontré, une histoire absolument extraordinaire, merveilleuse. Il racontait ça avec tellement de délices, c'était délicieux de voir ce vieux monsieur parler de l'amour de sa vie, de sa femme, etc. C'était très beau. Et puis il nous raconte bien son grand chagrin, c'est quand elle est décédée, et personne ne pouvait le consoler. Et les gens qui le connaissaient étaient venus le voir, présenter les condoléances, etc. Mais il dit, bon, voilà, c'était très gentil, bien sûr, de la part des gens, mais lui, il était dans son chagrin. Il dit, il y a une personne qui m'a vraiment aidé, c'était un berger. Un berger qu'il connaissait, qui vivait un peu en ours dans sa montagne, avec ses brebis, complètement analphabète. Il ne savait ni lire, ni écrire, ni rien. Il vivait avec ses brebis. Et il est venu le voir après le décès de sa femme. Il est descendu de sa montagne. Il lui a dit, Jean, vous voyez, il s'appelait Jean, le monsieur. Jean, vous voyez, moi je ne sais pas dire les choses, mais je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, je rentrais mes brebis au bercail. Je les compte, il en manquait une. Authentique, hein. Vous connaissez pas l'évangile. Il m'en manquait une. Alors, j'ai fermé le bercail, je suis reparti à sa recherche, et puis, la nuit allait tomber, je regardais, elle s'était perchée sur une falaise abrupte, le temps, elle n'arrivait plus à descendre, le temps que j'aille la chercher, je la récupère, je la mette sur mes épaules, la ramène. En fait, la nuit était tombée, on ne pouvait plus rentrer. Alors, je me suis blotti dans un rocher, j'ai pris ma brebis dans mes bras. Et finalement, le soleil a fini par se lever. C'est tout. Et il est parti. Quelle belle parabole. Vous voyez, très évangélique. Et c'est ce qui avait touché profondément Jean, justement, pour le consoler de la perte de son épouse. Bien, je vous raconte ça parce que imaginons la Vierge Marie au jour du samedi saint. C'est celle qui prend tout le troupeau dans ses bras pour le consoler et attendre avec lui dans la prière que se lève le soleil de justice. Le silence de Marie rejoint le silence de son fils au tombeau. Mais il a un silence plein de la foi et de l'espérance dont tout son être témoigne, sans que le monde le sache encore. Après la mort du Christ, Marie soutient de sa prière les apôtres. Elle leur demande de recevoir la force et la lumière de l'Esprit. Par sa présence maternelle, priante et discrète, elle engendre l'Église et encourage les compagnons de son Fils. Alors que les apôtres sont dispersés, elle reconstitue la communauté des disciples et édifie l'Église dans le silence et la prière. À l'heure où la Vierge Marie vit le silence du grand et saint samedi, nous pouvons nous rappeler aussi l'événement de la Visitation. Elle portait en son sein, caché aux yeux des hommes, l'auteur de la vie. Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère et lui donne de reconnaître en sa cousine la mère du Sauveur qui vient à elle. Marie porte la vie avec elle. Ce qui était vrai au temps où elle était enceinte de Jésus demeure toujours vrai et plus encore, tant toute sa vie est imprégnée de cette vie de son Fils. Et dans le silence de la vie qui va éclore, elle chante déjà son Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Terminons quand même par la joie de Pâques, parce que je n'aurai pas l'occasion de vous en parler demain. Donc, mon quatrièmement, cette joie de Pâques du Christ ressuscité, Marie n'est peu présente au final dans les Écritures, mais il y a une tradition ancienne qui dit que Jésus s'est d'abord montré à sa mère, à la Vierge Marie. Le pape Jean-Paul II avait repris cette tradition dans une de ses audiences du mercredi, le 21 mai 1997. Et je vous lis un passage. Le caractère unique et spécial de la présence de la Vierge au calvaire et sa parfaite union avec son Fils dans la souffrance de la croix paraissent postuler sa participation tout à fait particulière au mystère de la résurrection. Un auteur du second siècle, Sidulius, soutient que le Christ s'est montré dans la splendeur de sa vie ressuscitée en premier lieu à sa mère. En effet, celle qui, au jour de l'Annonciation, avait été la voie de son entrée dans le monde, était appelée à répandre la merveilleuse nouvelle de la résurrection pour devenir l'annonciatrice de sa venue glorieuse. Ainsi, toute remplie de la gloire du ressuscité, elle anticipe la beauté resplendissante de l'Église. Dans la résurrection du Seigneur Jésus, nous avons le triomphe de la vie, l'accomplissement ultime de la mission rédemptrice du Seigneur Jésus. La joie jaillit d'autant plus grande, comme je vous le disais, que nous avons consenti à descendre au plus bas avec Jésus, à vivre vraiment pleinement ce temps du Samedi Saint, dans le silence, la prière, l'union à celui qui est dans le tombeau et qui descend aux enfers. Suivre Jésus dans les affres de la douleur et de la mort. Ceux qui ont frôlé la mort le savent bien et en ont fait l'expérience. Pour eux, la vie est riche de sens et de goût. Prendre conscience du péché pendant le carême, réaliser que la mort guette, tapis dans l'ombre de nos consciences modernes aseptisées, mesurer la distance infinie qui nous sépare de la sainteté divine, voilà le contraste décapant qui permet de laisser jaillir une joie intense et belle, fruit de l'amour inconditionnel du Seigneur pour nous. Nous n'avions rien mérité, et pourtant, comme le dit l'Écriture, Dieu, en nous donnant son Fils, nous a tout donné. Il nous l'a donné en immolation sur la croix, en sacrifice saint d'expiation pour nos péchés et le péché du monde entier. Il nous donne encore et plus encore dans cette victoire de la résurrection, dans ce triomphe de la vie. Il nous le donne comme vainqueur du péché et de la mort. Je voudrais conclure en vous laissant sur une parole du Saint-Pape Grégoire le Grand dans une homélie du Saint-Jour de Pâques. Cette résurrection, annoncée en figure avant d'être manifesté en acte, aimons-en la gloire, frère très cher, de tout notre esprit, et mourons pour son amour. Voilà qu'à la résurrection de notre Créateur, nous reconnaissons pour concitoyens les anges, ses serviteurs, qui habitent la même cité que nous. Hâtons-nous donc vers la fête solennelle à laquelle se pressent en foule les habitants de cette cité. Et j'oserais ajouter, hâtons-nous avec Marie, avec elle, à sa suite, en la prenant chez nous. Joignons-nous à eux par le désir et la pensée, puisque nous ne le pouvons pas encore par la vision. Passons des vices aux vertus pour mériter de voir notre Rédempteur en Galilée. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide à désirer la vie, lui qui, pour nous, a livré à la mort son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant Dieu, vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen.